Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Très chers auditeurs, bonjour. Le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique en RDC. Récemment, le secrétaire exécutif du Programme national multisectoriel des luttes contre le sida dans la Tchopo a révélé à Radio Okapi au cours d'une interview que la province de la Tchopo compte plus de 14 100 personnes affectées par le VIH-Sida et sont placées sous antirétroviraux. Et pire encore, la situation de cette pandémie est plus alarmante chez les jeunes, faute de sensibilisation. Face à ces drames, il est impérieux de se poser la question de savoir l'éducation peut-elle aider les jeunes à se prémunir du VIH-Sida ? Comment ? Dans ce numéro du magazine Bana Okapi, vous entendrez les jeunes, les parents, les experts nous parler de comment utiliser l'éducation pour arrêter l'expansion du VIH-Sida chez les jeunes. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine. Debsovita est à la mise en onde, une réalisation de Stanislas Diumi et Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matouakimo Felele Dijana.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Très chers auditeurs, nous parlons de comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir du VIH-Sida. Commençons ce magazine dans la province de la Tchopo. Dans cette province, les taux de prévalence est estimé à 2,3% dans l'ensemble. Les femmes enceintes et les jeunes gens sont le plus affectés par le VIH-Sida. Comment peut-on expliquer cette situation et que faire pour renverser la tendance? Madame Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida dans la Tchopo, s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Madame Christine Sefou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de prendre les rênes du programme multisectoriel de lutte contre le sida dans la province de la Tchopo. Quel état des lieux pouvez-vous brosser à propos de cette pandémie dans cette juridiction?
Merci, monsieur le journaliste. Je suis heureuse puisque j'ai trouvé que le paquet VIH est intégré dans toutes les 23 zones de santé qui constituent la province de la Tchopo. De ces 23 zones de santé, il y a 14 151 PVV qui sont mis sous ARV. De ces 14 151, au moins 65% sont des femmes. Et la prévalence du VIH chez les femmes enceintes est de 4%. Quand nous regardons parmi les 23 zones de santé, 5 ce sont des zones de santé urbaines, donc qui constituent la ville de Kisangani. Et parmi le nombre là de PVV, au moins 70% se retrouvent ici dans la ville de Kisangani, et particulièrement dans la zone de Kabondo, Makiso et Tchopo et les autres. Donc c'est Kabondo qui est en tête, suivi de Makiso.
Quel est alors le taux de prévalence général au niveau de la Tchopo?
D'une façon générale, c'est à 2,3%.
Et quelle est la place de la Tchopo au niveau national par rapport à ces données?
En tout cas, la Tchopo est parmi les provinces qui tirent les pays en bas, compte tenu des indicateurs. Les activités qui sont menées ici, beaucoup ne se font pas comme il faut, surtout la charge virale et consorts. Et ça fait en sorte que les indicateurs du pays, donc la province, tirent les pays en bas.
Alors, par rapport aux jeunes, quelle est la situation?
Je dirais que les jeunes, en tout cas, la situation est alarmante. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. bon, nous voyons, la plupart des jeunes, ils ne connaissent pas les modes de transmission et les moyens de prévention au VIH. Pourquoi? C'est puisque la sensibilisation ne se fait plus.
Pourquoi elle ne se fait plus?
Depuis qu'on a arrêté le financement de la Banque mondiale, beaucoup de, donc, de partenaires faisaient ces activités de sensibilisation. Ils n'ont plus les moyens pour les réaliser. Et nous regrettons surtout pour les médias, les radios et consorts, on n'en parle même pas.
Madame, comment on peut expliquer surtout cette prévalence élevée au niveau des zones de santé urbaine?
Il faut voir la population et la proximité. Vous voyez par exemple le Kabondo, c'est une porte d'entrée. Là qui reçoivent les gens qui viennent des autres provinces, qui viennent de l'Est, et là nous savons qu'il y a une forte prévalence. La ville aussi est cosmopolite, il reçoit tout le monde. Des gens qui viennent de partout, ils sont là. Et il y a beaucoup d'activités qui font en sorte qu'ils puissent exposer cette population-là à l'épidémie du VIH-Sida.
Les activités minières peuvent aussi y être pour quelque chose.
Bien sûr, vous voyez, quand quelqu'un a l'argent, ça facilite les choses. Alors, on peut se contenter de faire de n'importe quoi qui peut vous exposer au VIH-Sida. Il y a aussi le chômage. Le chômage qui entraîne les jeunes à pratiquer donc des activités qui peuvent les exposer. Les jeunes filles sont appelées à faire la prostitution pour avoir un peu de moyens.
Est-ce que les médicaments sont disponibles pour la prise en charge des personnes affectées?
Bon, en ce qui concerne les médicaments et les intrants, en tout cas là, la situation n'est pas bonne. Puisque les réactifs des laboratoires, il n'y en a pas. Et les ARV sont presque à pré-rupture. Il n'y en a pas suffisamment. Les médicaments pour traiter les infections sexuellement transmissibles, il n'y en a pas. Si on attrape un malade avec une infection transmissible autre que le VIH, on lui donne une prescription.
Par rapport à la prévention, qu'en est-il des préservatifs?
Les préservatifs, il y a petite quantité insuffisante et ça, ce n'est pas bon pour toute une grande province comme celle-ci.
Comment étiez-vous approvisionné avant?
Bien sûr, il y a le Fonds mondial qui était en train d'approvisionner les programmes. Pour le moment, ils sont en gel. Donc, ils ne donnent plus les préservatifs. Et les activités sont presque vraiment arrêtées à l'étargie. Alors, nous n'avons pas un autre partenaire qui peut nous appuyer dans ces intrants.
Madame, vous déplorez le manque de moyens pour mener vos activités. Comment alors pouvez-vous renverser la tendance?
Qu'est-ce que nous comptons seulement sur notre gouvernement. Puisque le gouvernement doit veiller à la santé de sa population. Nous aimerions que le gouvernement puisse affecter dans le budget national une ligne budgétaire qui peut couvrir une grande partie donc des activités du VIH. Donc nous comptons sur le gouvernement.
Madame Christian, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir contre le VIH-Sida? C'est le sujet au cœur de votre émission de ce jour. Vous êtes les bienvenus si vous venez à peine de nous prendre en cours des diffusions. Après notre passage dans la province de la Tchopo, Bano Okapi nous emmène aussi dans la ville de Beni au Nord Kivu, où certains jeunes disent être suffisamment sensibilisés au danger du VIH-Sida. Ils affirment avoir reçu ces informations pour certains à l'école, pour d'autres à travers les médias. Mais très peu sont ceux qui en parlent en famille. Guylaine Kassassia les a rencontrés et voici leur réaction.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Que sais-tu du VIH-Sida?
Je sais que le VIH-Sida, c'est une maladie incurable qui se transmet par voie sexuelle ou soit par contact avec des objets tranchants qui sont contaminés.
As-tu déjà parlé de cette maladie avec tes parents?
Pas encore. C'est presque comme un tabou dans notre famille de parler du sexe, comme le sida est une maladie transmissible via le sexe. Alors c'est presque un tabou. Et on en parle seulement d'une manière superficielle dans notre famille.
Alors, comment as-tu reçu les informations que tu as de cette maladie?
Ok, c'est au niveau de la communauté, mais aussi à l'école et à l'hôpital.
Alors, dans ce sens, tu as déjà fait le dépistage, comme tu parles de l'hôpital?
Oui, j'ai déjà fait le dépistage, je le fais régulièrement. D'ailleurs, je suis donneur du sang et c'est là que j'apprends aussi du VIH-Sida.
Tu peux nous dire que tu connais quand même quelqu'un qui vit avec cette maladie?
Ah non, je ne connais pas quelqu'un, mais il y a seulement des rumeurs. Je connais certaines personnes, mais je n'ai pas la preuve qu'ils sont malades.
Tu n'as jamais vu vraiment?
Ah non, je n'ai jamais vu, mais seulement sur des photos et des gens qui en souffrent.
Alors, que faire selon toi pour se préserver du VIH-Sida?
Pour se préserver du VIH-Sida, il faut seulement l'abstinence et aussi faire des rapports sexuels protégés.
Protéger, ça veut dire quoi?
Protéger signifie porter son condom quand on veut faire le rapport sexuel.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Que sais-tu du VIH-Sida?
VIH-Sida, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Parmi les maladies sexuellement transmissibles, c'est ce que moi je sais.
Et as-tu déjà parlé de cette maladie avec tes parents?
Non, pas encore. Bon, en fait, nos parents sont des charismatiques. À un certain moment, on se réserve pour ne pas chaque fois aborder à certaines choses. Bref, nous avons évolué dans une famille auquel on ne s'habitue pas à rester tout près des parents.
Comment as-tu reçu les informations que tu as de cette maladie?
Bon, en fait, les informations, je les avais attendues premièrement dans des médias, à la radio, sur Internet. Même dans la rue, j'attendais parler de VIH. Et la première des choses, je l'avais bien attendue à l'école lorsque j'étais encore à l'école primaire, à l'école secondaire. Là, il y avait un cours qu'on appelait EDVI, un cours auquel on essayait de détailler en fait la maladie en question, on essayait de parler les dangers, les conséquences et tout ça.
Mais pas à la maison vraiment.
À la maison, non.
Alors, as-tu déjà fait le dépistage?
Non, pas encore.
Pourquoi?
Parce que j'ai confiance en moi, je n'ai pas la maladie en fait.
As-tu déjà vu quelqu'un qui vit avec
ça? Oui, j'en ai déjà vu.
Il se comporte comment?
Bon, tellement que je lui avais vu dans la manière que je lui avais vu, bon, je pense que la maladie d'abord perd la force de quelqu'un. Donc quelqu'un aura un peu de malaise, un peu de faiblesse. Et la force, vraiment, il aura un peu de force. C'est ce que j'ai compris de la maladie. Du jour au jour, la personne se rendrait de diminuer en fait la masse. Il se rendrait de quoi? De maigrir.
Pour toi, que faire pour se préserver du VIH-Sida?
Pour se préserver du VIH-Sida, il faut lutter contre les rapports sexuels. Se protéger aussi contre les objets trachés faits comme des lames. Parce que les malades peuvent propager cette maladie par tas des objets trachés lorsqu'ils utilisent par exemple des lames, arrosoirs, des couteaux, quoi. Et imaginez-vous que l'objet là qui détient le sang, si c'est utilisé par une autre personne, imaginez-vous les conséquences. Il va aussi être contaminé par la maladie en question.
Bonjour.
Bonjour. Que sais-tu du VIH-Sida?
À ce que moi je sais, le sida, c'est une maladie qui est transmissible sexuellement et c'est une maladie qui tue.
Et alors, as-tu déjà parlé de cette maladie avec tes parents?
Oui, concernant cette maladie, un jour j'en avais parlé avec mes parents. C'était une nuit. Bon, ce sont mes parents qui m'ont appelé pour me parler de cette maladie. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils t'avaient dit?
Ils m'ont dit que cette maladie, elle est vraiment, vraiment dangereuse pour un être humain. Cette maladie, vraiment, elle n'est pas souhaitable pour la vie d'une personne.
Et à partir du jour là, comment tu te comportes?
À partir du jour où mes parents m'ont parlé de cette maladie, j'évite surtout certaines choses. J'évite surtout lorsque je vais au salon pour me faire coiffer. Je ne veux pas qu'on utilise la lame qu'ils ont utilisée pour coiffer une autre personne. Et comme je suis un peu mature, j'évite surtout les rapports sexuels. Voilà.
Et comment as-tu reçu les informations de cette maladie à l'école ou...
Concernant cette maladie, premièrement, j'ai reçu l'information à l'école. C'était à l'école primaire, à l'école secondaire aussi. Même à l'université, on parlait de ça.
As-tu déjà fait des dépistages?
Concernant cette maladie, je n'ai pas encore fait des dépistages.
Ouais. Et connais-tu quelqu'un qui vit avec cette maladie?
Pour être clair, j'en connais vraiment quelques-uns. Ouais.
Leur apparence, c'est comment?
Bon, il y a celles-là qui vivent avec ça. Il y a l'une qui est vraiment mince, elle a beaucoup maigri. Et l'autre qui prend des médicaments, donc sa santé, elle est là, mais elle est malade.
Et alors, que faire pour se préserver?
Pour se préserver du sida, nous devons éviter les rapports sexuels avec n'importe quelle personne parce que cette maladie est sexuellement transmissible. Et nous devons aussi éviter de jouer avec certaines choses comme le lame de rasoir pour les enfants, donc des choses qui peuvent blesser au fait parce que cette maladie, elle se transmet surtout lorsque vous êtes blessé, le sang. C'est le sang qui transmet cette maladie. Nous devons éviter les objets tranchés. Voilà.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Oui. Que sais-tu du VIH-SIDA?
VIH-SIDA, je sais bien que c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est ce qu'on m'avait appris à l'école, même dans le quartier.
As-tu déjà parlé de cette maladie avec tes parents?
Oui, oui, j'ai déjà parlé ça plusieurs fois avec mon père. Vous voyez, pour l'instant, nous sommes presque à l'âge majeur. Et mon père avait toujours l'habitude de me conseiller concernant ces maladies. Il faut chaque fois se préserver et se protéger contre ces maladies-là parce que quand ça touche quelqu'un, ce sont des problèmes.
Et qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous demandait de faire quoi pour vous protéger?
Bon, mon père d'abord, il me disait qu'il faut se méfier des femmes ou soit des jeunes filles. Ne voyez pas seulement la paresse extérieure d'une fille. Il disait qu'elle est belle, bon. Je ne sais pas ce qui se passe dans son corps. En tout cas, vraiment, mon père me disait qu'il faut chaque fois se préserver avec cette maladie-là.
Comment as-tu reçu les informations que tu as de cette maladie?
D'abord, j'avais eu ces informations à l'école. À l'école, on nous enseignait les cours d'aide-vie. Je m'en souviens même de mon enseignant là. Il nous disait souvent concernant les SIDA, en tout cas, vraiment, il m'altérait souvent concernant ces maladies-là. Vraiment, c'est là où j'ai reçu beaucoup des explications, même au quartier aussi.
As-tu déjà fait de dépistage?
Bon, j'ai déjà fait ça au moins deux fois.
Connais-tu quelqu'un qui vit avec cette maladie?
Oui, oui, je connais au moins plusieurs personnes. Bon, les autres personnes, on dit seulement dans le quartier, tel, il souffre de SIDA, mais on ne sait pas si c'est réel ou soit. Mais il y en a au moins quelques têtes dont je savais très bien que tel souffre de la maladie de VIH-SIDA.
Alors selon toi, que faire pour se préserver du VIH?
Il faut d'abord se méfier de coucher pêle-mêle avec des filles. Et en fait, il faut avoir l'habitude de faire des rapports sexuels qui sont protégés, c'est ça.
Protégés pour vous dire quoi?
Bon, par exemple, avoir une seule femme. Et à part ça, il faut chaque fois porter aussi des préservatifs pour se protéger davantage. Pour s'abstenir aussi.
Bon, en fait, moi, du VIH-SIDA, je connais que c'est une maladie incurable d'abord et qui tue fort quand ça décide de tuer.
As-tu déjà parlé de cette maladie avec tes parents?
Oui, c'était dans une rencontre, oui, en famille, où nous étions en train de discuter de cette maladie avec le para. Donc, c'était une sorte de conseil qu'on était en train de nous prodiguer, disant que nous devons faire gaffe et que la maladie vraiment est en train de déborder dans notre ville.
Et comment as-tu reçu les informations compte tenu de cette maladie? À l'école ou en famille?
À l'école, en famille, ainsi que dans la société, dans de radio, dans de médias à ligne aussi.
As-tu déjà fait de dépistage?
Oh oui, je l'ai déjà fait. C'était, heureusement, c'était négatif chez moi parce que j'avais déjà reçu des conseils comment se prévenir du sida.
Retournons à Kinshasa pour parler du VIH-SIDA, mais cette fois-ci avec le parent. Je vous invite à suivre deux parents qui nous parlent de comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir du VIH-SIDA, mais aussi de comment ils font pour aborder ces sujets en famille. Le premier à prendre la parole, c'est Monsieur Dedingoma qui répond aux questions de Sulamit Kipuni.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va.
Monsieur, nous aimerions vous poser quelques questions sur le VIH-SIDA. Comme nous le savons tous, l'épidémie du VIH-SIDA est la plus mortelle qui soit à notre époque, même si l'on découvrait aujourd'hui les produits contre le VIH. Alors, sur ce, nous avions quelques questions à vous poser. Parlez-vous du VIH-SIDA avec vos enfants adolescents?
Bon, non, pas du tout, parce qu'ils sont encore très petits, mais lorsqu'ils vont commencer à grandir, je vais commencer à leur parler de ça. C'est très important.
À partir de quel âge un enfant court le risque de se faire contaminer du VIH-SIDA?
En fait, l'âge n'est pas du tout déterminé. Même quand il est bébé, il peut l'attraper, parce que vous pouvez utiliser des objets tranchants que quelqu'un est malade, atteint du SIDA, a déjà utilisé. Peut-être contaminé, soit on soigne les enfants par les objets traités par un autre un malade du sida, quelqu'un qui est atteint, l'enfant peut l'attraper. Donc, à cet âge-là, il faut que les parents puissent être d'abord très vigilants en attendant qu'ils puissent prendre conscience pour commencer à leur parler de ça. Mais il faut quand même les éduquer par rapport aux objets tranchants utilisés déjà par d'autres personnes qui ne puissent pas les utiliser.
Pensez-vous que les jeunes en RDC ont accès aux informations nécessaires sur le VIH-SIDA?
Il y a des jeunes qui sont accès à ça, mais d'autres ne sont pas accès à ça. Il y a de ceux qui connaissent, qui se préservent, mais d'autres ne préservent pas. Donc, parce qu'ils ne sont pas informés.
Comment faire pour informer les plus de jeunes possible de comment se préserver de cette maladie?
Et là, il faut passer par l'éducation des enfants. Ça doit commencer au niveau des écoles, au niveau des églises et au niveau aussi de la famille. Donc, il faut les éduquer, leur parler du sida. Là, ils pourraient comprendre et prendre conscience.
Pensez-vous que l'éducation peut aider les jeunes à se protéger du VIH-SIDA? Si oui, comment?
Oui, c'est par des forums. Il faut que les pères éducateurs puissent les encadrer. Et lorsqu'ils sont conscients, ils savent les effets et le méfait du sida, les jeunes vont se préserver. Ils auront quand même de la crainte et vont se préserver et les connaître aussi, c'est ça.
Merci. Quel message pouvez-vous passer aux parents en ce qui concerne cette maladie?
En fait, la responsabilité, c'est aux parents d'abord. Aux parents d'éduquer les enfants par rapport à ce fléau. C'est un fléau qui tue presque tout le monde. Lorsqu'on attrape, même s'il y a des antirétroviraux, votre niveau de vie est quand même ne sera pas comme quand tu seras en bonne santé. Donc les parents doivent déjà commencer dès la maison éduquer leurs enfants, de leur parler du sida et de leur parler de ce que le sida fait comme défaut, comme mal à ceux qui l'ont déjà atteint, parce que la santé c'est un investissement. Lorsqu'on est en bonne santé, tu peux travailler, tu peux investir, tu peux élaborer des projets, mais lorsqu'on est atteint du sida, tu vois que tu es déjà mort, tu n'es pas à mesure de faire tout travail, donc tu es déjà mort, tu es malade. Donc il faut que les parents prennent conscience et éduquer les enfants, leur parler de ça, et là ce sera mieux. Merci.
Un autre parent, c'est Madame Souria Belika. Elle aussi est au micro de Sulamit Kipuni.
Bonjour madame.
Bonjour.
Nous aimerions vous poser quelques questions sur le VIH-SIDA. Alors, parlez-vous du VIH-SIDA avec vos enfants adolescents?
Oui.
Quel air dites-vous sur cette maladie?
J'ai l'air dit que c'est une maladie qui se transmet par le rapport sexuel ou par transfusion sanguine, de mère à l'enfant, voilà.
À partir de quel âge un enfant court les risques de se faire contaminer par le VIH-SIDA?
Déjà, même un nouveau-né risque d'être contaminé à travers sa maman. Deuxièmement, un enfant qui est actif sexuellement peut aussi être contaminé, ou soit un enfant qui a utilisé une seringue d'une personne contaminée. Donc ça ne dépend pas de l'âge en fait. Tout enfant, tout être humain peut être contaminé par le virus du sida.
Pensez-vous que les jeunes en RDC ont accès aux informations nécessaires sur le VIH-SIDA?
Je dirais que non. Parce que en RDC, nous sommes sous-informés. Nous ne sommes pas vraiment informés. Tout le temps sur Internet, mais on ne suit pas vraiment des informations sur le VIH ou sur la santé. Nous sommes sur les fertilités, les séries télévisées et autres. Donc je ne pense pas que nos jeunes sont vraiment au courant de cette maladie.
Comment faire pour informer les plus de jeunes possible de comment se préserver de cette maladie?
Je vis sur la sensibilisation dans les écoles, dans les églises, dans les hôpitaux.
Pensez-vous que l'éducation peut aider les jeunes à se protéger du VIH-SIDA? Si oui, comment?
Oui. L'éducation peut protéger les jeunes, parce que quand on explique aux jeunes qu'il faut faire ceci, quand vous faites cela, ça va, vous risquez d'avoir le sida, les gens vont commencer à savoir, parce que des bantous. Nous disons toujours à l'enfant de ne pas faire les rapports sexuels, soit si tu fais les rapports sexuels, tu seras enceinte et tout ça. On oublie de leur dire qu'il y a aussi la maladie qui existe. Après le sida, il y a aussi les MST et tout. Alors il faut dire aux jeunes, quand vous voulez aller, il faut vous protéger. Il faut tout le temps vous protéger, pas seulement du sida, pour tout type de maladie. On doit sensibiliser les jeunes, brièvement, que utiliser le préservatif pour pas attraper le VIH-SIDA.
Quel message pouvez-vous passer aux parents en ce qui concerne cette maladie?
En ce qui concerne cette maladie, je dirais que c'est une maladie qui existe et ça tue beaucoup de gens. Lors du rapport sexuel, par la voie anale ou soit vaginale, ça se transmet de la mère à l'enfant. Vous voyez, ça se transmet aussi par une aiguille de quelqu'un qui est déjà affecté. On doit dire à l'enfant qu'il faut que tu te protèges. Il y a telle maladie. Et les mamans, ça se dit aussi les mamans qui sont enceintes, parce qu'il y a aussi les mamans qui sont enceintes qui ne savent pas qu'ils sont contaminés et peuvent facilement contaminer l'enfant. Quand ça subisse, les mamans, ils vont se faire dépister et là, les enfants aussi seront sauvés.
Chers auditeurs et amoureux du magazine Bana Okapi, nous allons boucler la première partie de ce magazine.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, Pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à ce que nous prenons cours des diffusions. Le magazine Bana Okapi d'aujourd'hui vous parle de comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir du VIH-SIDA. En effet, l'éducation permet aux jeunes d'adopter des comportements responsables, ce qui leur permettra de mieux se protéger face à cette maladie. Grâce à l'éducation, les jeunes peuvent facilement intégrer dans leurs habitudes des pratiques telles que le port de préservatifs, se faire dépister et s'ouvrir à des discussions sur le VIH-SIDA avec leurs proches et avec leurs partenaires. L'éducation peut également réduire la discrimination à l'encontre des enfants et des adolescents séropositifs. Dans cette seconde partie, nos experts vont nous expliquer comment l'éducation peut aider à réduire le taux de contamination chez les jeunes. Aussi, comment en parler en famille, mais également à quel âge aborder les sujets sur le sida avec ses enfants. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sumbela. La mise en onde est assurée par Mimi Kindou, une réalisation de Gisèle Cage et Stanislas Diomi, sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir contre le VIH-SIDA? Il est très important que les enseignants mettent un accent sur l'éducation à la vie et parler largement du danger du VIH-SIDA. C'est ce que pense M. Mukundi Kakule, enseignant à l'Institut de l'Avenir de Beni Iyabe, qui s'exprime au micro de Guylaine Kassassia.
Kakule Mukundi, bonjour.
Oui, bonjour, madame la journaliste.
Parlez-vous du VIH-SIDA aux élèves?
Oui, nous en parlons suffisamment d'ailleurs. Par exemple, dans le cours de biologie, dans le cours d'éducation à la vie, mais aussi dans d'autres séances de séminaires, on en parle toujours.
Pourquoi vous en parlez aux enfants?
Bon, vous savez, aujourd'hui, le sida, c'est déjà un ennemi avec qui nous vivons. Partout, on peut contracter le VIH. Alors, ça vaut la peine d'en parler pour prévenir les enfants. Oui, par exemple, dans des métiers, les accidents professionnels peuvent entraîner le VIH-SIDA, l'amour aujourd'hui qui est à la haine avec notre jeunesse. Donc partout il y a du SIDA, alors il y a vraiment intérêt de donner des informations suffisantes par rapport à cette maladie.
Quand vous parlez des informations suffisantes, est-ce que vous pouvez leur parler des origines de cette maladie?
Oui, dans l'éducation, pour mieux prévenir, il faut d'abord connaître les facteurs favorisants, les facteurs aggravants. Et c'est pour cette raison que nous donnons des informations, à commencer par les origines du VIH. Parce que les autres pensent que le VIH c'est une malédiction ou c'est vraiment un montage, mais il faut leur dire que vraiment les origines sont bien connues et nous leur parlons de l'agent causal du VIH-SIDA, le virus du SIDA.
C'est dans quelle leçon que vous enseignez ce cours?
Par exemple, dans la leçon de la reproduction, dans la biologie, chapitre qui parle de la reproduction, on doit aussi épingler les notions des maladies qui affectent l'appareil reproducteur. Et dans cette occasion, on introduit une notion sur le VIH.
Et lorsque vous êtes appelé cours de cette maladie, quand vous en parlez aux enfants, comment est-ce que vous trouvez leur attitude?
Les enfants sont curieux, ils veulent vraiment savoir, surtout avec beaucoup d'enseignements qui se passent dans les médias. Ils ont tendance maintenant de vérifier si réellement les enseignants peuvent répéter la même chose qui se passe dans les médias, parce que les autres disaient que, on leur disait que le VIH a pris son origine à travers une relation qui a été faite entre l'homme et le chien. Alors, pour essayer d'élaguer ces difficultés-là, ils ont tendance vraiment à poser beaucoup de questions et on doit aussi toujours chercher à les répondre pour les satisfaire.
Quand vous essayez de leur poser la question de savoir s'ils ont le temps d'échanger avec les parents, qu'est-ce qu'ils disent?
Oui, les parents en parlent et les parents leur disent que si on fait le rapport sexuel, alors on va contracter le sida. Alors c'est ça aussi et puis la confusion. Les parents donnent des enseignements sur le VIH dans le sens d'effrayer les enfants, mais pas dans le sens de les instruire suffisamment. C'est aussi ça que nous voulons aussi régularisé au niveau de l'école.
Pour vous dire quoi? Quand vous parlez d'effrayer.
Il crée la peur dans le camp des enfants. Il dit, si vous faites le rapport sexuel, alors vous allez contracter le sida. Et puis l'enfant pose la question. Et pourtant, les parents, eux aussi, font le rapport sexuel. Ils n'ont pas le sida. C'est déjà quelque chose de contradiction. Alors pour nous, à l'école, nous leur disons que il y a le relation sexuelle, c'est un facteur de risque. Ce n'est pas directement le facteur causal du VIH-Sida.
Et si on fait des relations sexuelles, vous leur dites quoi? Ils doivent se comporter comment?
Alors, nous leur parlons du système ABC, donc l'abstinence, la confidence et le condom. Par exemple, ce système-là, pour essayer de se mettre à l'abri du VIH. Mais nous leur assurons que c'est l'abstinence qui est la meilleure façon de se protéger. Parce qu'on peut connaître d'autres problèmes liés à ces méthodes ici, notamment la confidence. Quelqu'un peut vous tromper par sa confidence, il vous trompe qu'il est confidence à vous, alors que ce n'est pas ça. Alors la meilleure façon, c'est donc l'abstinence.
Le cours de VIH-Sida, c'est aux élèves de quel âge?
Dans le système secondaire, partout il y en a des occasions. En 7e, il y en a des occasions dans les cours d'éducation à la vie. Dans les classes d'option, il y en a toujours des cours, par exemple la biologie, parce que si nous faisons la technique, partout au moins nous avons la biologie. Et dans toutes les classes, nous avons l'éducation à la vie. Donc tous ces cours-là offrent l'opportunité vraiment de parler suffisamment du VIH.
Selon vous, ce cours doit se donner, comme vous parlez, de tous les enfants, comme vous êtes à l'école secondaire. Est-ce que ça pourrait aussi se donner à l'école primaire?
Oui, le cours d'éducation à la vie à l'école primaire, même le cours d'anatomie, c'est aussi à l'école primaire. Quand on étudie les organes et les appareils, alors là, on épingle aussi directement les maladies qui peuvent attaquer les différents organes. Dans ce cas, on parle directement du VIH et les autres infections sexuellement transmissibles.
Pensez-vous que l'éducation que vous donnez aux enfants peut aider les jeunes à se protéger du VIH-Sida?
Vraiment, nous sommes rassurés. Parce que ce que nous donnons aux enfants, un peu plus tard, les enfants parviennent à le pratiquer. Donc, c'est là aussi, sans doute, ça leur donne un peu en avance la notion de l'autoprotection.
Et actuellement, comment vous jugez les jeunes dans la communauté à Beni?
Les jeunes sont vraiment emportés par l'amour et c'est aussi un facteur qui est en train de se confirmer aujourd'hui parce qu'avec une densité comme ça, avec la calamité de la vie, tous ces aspects-là, c'est comme si donnent l'opportunité aux enfants de se donner au sexe parce que les autres ont trouvé un moyen de survie. Donc on peut dire que nous sommes vraiment exposés. Nous sommes dans une zone, je dirais alors, endémique, où le sida est à permanence avec nous.
Est-ce que aussi vous encouragez quand même les enfants, lorsque vous donnez ce cours-là, est-ce que vous leur parlez aussi de l'importance du dépistage?
Exactement, parce que c'est la façon de dénicher ceux qui sont déjà malades, et pour prendre au moins une prise en charge qui est appropriée. Tout ça, on leur dit, mais malheureusement, le pragmatisme, parce que le dépistage, c'est à peine beaucoup de temps qu'on a suspendu le dépistage. On a laissé ça au niveau de l'hôpital et ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent se rendre dans l'hôpital. Mais aussi, j'étais par là à remercier certains parents. Il y en a des parents qui dépistent leurs enfants, en dehors même le programme de l'école, parce qu'il y en a des enfants qui nous témoignent qu'ils avaient déjà passé par le dépistage. Donc, il y en a ceux qui en pratiquent.
À part faire les relations sexuelles parmi les causes, il y a aussi quoi?
Nous parlons souvent des relations sexuelles parce que c'est le grand facteur. Pas mal de gens qui ont le VIH, ils l'ont contracté par voie urogénitale. Mais à cela, on n'exclut pas les manipulations des sérosités comme par exemple le sang au niveau du laboratoire, les objets tranchants comme le lame de rasoir. Donc l'essentiel, ça serait peut-être faire en sorte qu'on a ses propres objets. Par exemple, lorsque nous partons dans des salons de beauté, le manicure, il fallait vraiment avoir ses propres matériels ou à défaut alors l'utilisation intempestive de l'alcool pour essayer de bloquer l'activité de ce virus.
Peut-être pour finir, vous avez un conseil à donner aux parents quant au danger de cette maladie? Parce que même si vous enseignez ici, les parents aussi doivent faire du suivi à la maison.
Ce que je peux conseiller aux parents, c'est ceux qui doivent comprendre que le VIH, c'est une maladie comme tout autre. Parce que certains parents peuvent même être informés que son enfant est malade. Ils trouvent que s'il a alerté, c'est une façon de mettre à nu son enfant. Mais c'est vraiment une décision risquante parce que plus le patient est méconnu, plus il peut dissiper le virus un peu partout parce qu'il sera dans un cas de séro-ignorant. Donc c'est vraiment d'abord comprendre que le VIH c'est une maladie et aussi savoir que si on a le VIH, il faut une prise en charge. Et les parents doivent aussi nous aider à limiter les facteurs de risque. Parce que ce que je peux essayer de vous dire, madame la journaliste, il y en a une différence entre les enfants de ceux qui ont le moyen et les enfants de parents qui n'ont pas le moyen. Les enfants qui ont des parents qui ont quand même le moyen, ils semblent être très exposés parce que leur accoudrement, leur façon de s'habiller, c'est vraiment un facteur attirant ou attisant le besoin de faire l'amour vraiment. Parce que si vous essayez d'organiser une sortie avec les élèves, vous allez voir que les parents avaient déjà acheté aux enfants des habits vraiment qui les exposent seulement. Donc ils doivent réglementer le comportement parce que tout dépend du comportement.
Monsieur Arnold Mukondi, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
Comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir du VIH-Sida? Nous recevons pour vous le docteur Placide Kayombo, coordonnateur de la structure ABFND dans le Grand Kasaï. Pour lui, le VIH existe et ce n'est pas une utopie. Tout le monde peut l'attraper et tout le monde peut l'éviter, d'où il faut connaître comment l'éviter, bien que son traitement ne soit pas toujours curatif. Le docteur Placide Kayombo s'entretient avec Stanislas Diomi.
Bonjour docteur Placide Kayombo.
Bonjour cher Stanislas.
Vous êtes médecin, coordonnateur de la structure ABFND, basée dans la province de la Lomami, c'est ça?
Oui, je suis plutôt basé à Mbujumayi pour coordonner la région Grand Kasaï.
Ah d'accord, très bien. Alors aujourd'hui nous parlons de comment aider les jeunes à prévenir le VIH-Sida au moyen de l'éducation. Alors docteur Placide Kayombo, qu'est-ce que les jeunes doivent savoir du VIH-Sida d'abord?
Ok, merci beaucoup cher Stanislas. Le sujet que la Radio Capi aborde aujourd'hui, c'est un sujet très capital parce que cette émission est abordée dans un contexte très particulier que la RDC est en train d'étudier avec les grands partenaires qui appuient cette pandémie. Mm-hmm. Qui est le Fonds mondial. Et aussi avec cette suspension d'appui des États-Unis, on se demande qui est aussi un pays contributeur à cet appui des Fonds mondial. Donc on se demande quel sera l'avenir de la lutte contre le VIH-Sida en RDC si jamais le pays ne pouvait pas développer des bons mécanismes de résilience. Mais sinon là, on est confiant avec notre PNMLS et PNLS. Je pense que les choses vont aller. Alors, pour revenir à la question, c'est que les jeunes doivent retenir, je pense que c'est la première des choses, les jeunes doivent savoir que le VIH existe. Le VIH n'est pas seulement une utopie, n'est pas seulement une histoire, n'est pas seulement comme tel. Le VIH existe, il existe et tout le monde peut l'attraper et tout le monde peut l'éviter. Deuxième chose que les jeunes doivent retenir de ce VIH, c'est au moins chercher à connaître le principal moyen de contamination de ce VIH. Et qui dit contamination, on doit aussi connaître la prévention. Et aussi, les jeunes doivent comprendre que le traitement existe, bien qu'il ne soit pas curatif, mais néanmoins, il retarde vraiment le développement de la maladie et ça reconstitue le système immunitaire. Ça aide beaucoup les personnes atteintes.
Alors, vous venez de parler de comment la maladie se contamine, et comment le prévenir et les traitements. En peu de mots, est-ce que vous pouvez énumérer les modes de transmission de la maladie et comment les jeunes peuvent l'éviter?
Principalement, nous avons trois voies de contamination. Principalement, nous avons d'abord la voie sanguine. Donc, la voie sanguine, c'est toute la voie, nous disons, l'utilisation de matériel tranchant, des objets suyés, tout ça, ça entre dans l'utilisation de la voie sanguine. Deuxième voie, c'est la voie sexuelle, qui est la principale. Presque 80% de malades que nous avons, environ 80%, c'est contaminé par la voie sexuelle. C'est ça même ce qui rend ce sens tabou du VIH. Parce qu'on sait que quand on parle du VIH, on doit parler du rapport sexuel. Du coup, il y a un tabou qui se place, surtout dans notre contexte africain
et surtout dans le milieu des jeunes.
Dans le milieu des jeunes. Ouais. Donc, il y a la voie sexuelle et à la fin, il y a cette voie, la voie verticale que nous appelons de la mère à l'enfant, mais qui est au moins un axe très contrôlé dans notre pays. Parce que quand vous dites à une maman de prendre le traitement pour protéger son bébé, en tout cas, les mamans ne doutent pas. Ils prennent correctement leur traitement. Et pour prévenir, à chaque mot, un remède. Pour la voie sexuelle qui est la principale voie, nous avons également des méthodes de prévention, comme on parle des ABCD. A, c'est l'abstinence. Pour le jeune, on s'est dit que chaque jeune qui n'est pas marié, peut être élève, étudiant, chez ses parents, doit être dans l'abstinence sexuelle.
Très bien.
C'est ça la meilleure voie même. Parce que les autres, c'est l'unique voie qui a risque zéro. Parce qu'on s'abstient sexuellement, on ne doit pas réfléchir pour se dire que est-ce que ce que j'ai utilisé, le moyen, est-ce que c'est efficace. Nous avons parlé de A, abstinence. B, maintenant, c'est la bonne fidélité. Vous voyez qu'avant on parlait de fidélité, mais actuellement nous parlons de la bonne fidélité.
Pourquoi cette différence?
Parce que avant, les hommes pouvaient dire je suis fidèle à ma femme et à mes copines.
Ah, ok.
Voilà. Donc ça, ce n'est plus une bonne fidélité. Donc on doit être fidèle. C'est pour dire qu'une flèche d'aller est accompagnée d'une flèche de retour. Il doit y avoir ces boucles-là. Et nous avons C, c'est ces condoms, donc l'usage des condoms. Il doit être systématique et correct. Donc on doit se dire que cette personne qui n'est pas dans l'abstinence, qui n'est pas dans la bonne fidélité, doit au moins utiliser le préservatif à chaque rapport sexuel. C'est là même, nous disons, on ne peut pas manger sans se laver les mains, que ce soit un réflexe pour ces gens. Et les D, c'est le dépistage. C'est pour dire qu'on ne peut pas se dire on lutte contre le VIH si on ne connaît pas son statut sérologique.
Mais il y a beaucoup de jeunes qui refusent de connaître leur statut sérologique en disant que non, voilà, quand je vais me faire dépister et que j'apprends que j'ai le VIH, ça risque de précipiter ma mort.
C'est une erreur. Parce que plus tôt on connaît son statut, plus tôt on est pris en charge et correctement. Parce que le VIH évolue. Et aujourd'hui, il peut être confondu à un simple syndrome grippal si le système immunitaire est encore très bon. Du coup, au fur et à mesure, le VIH évolue, peut-être on peut découvrir tardivement et peut-être on ne pourra plus rien faire. Du coup, il faut se faire dépister, connaître son statut sérologique et on va instaurer les traitements qui pourra vraiment aider la personne à mener sa vie normale. Parce qu'actuellement, avec ces traitements, quelqu'un peut avoir le VIH, on l'aide à supprimer la charge virale, même s'il est célibataire, il peut entrer en mariage, avoir les enfants sans contaminer le partenaire et sans contaminer les enfants.
Ah bon?
Ah oui. Si on est correctement pris en charge, et à temps, là nous précisons, les choses peuvent tourner comme il veut. Nous avons déjà vu des personnes qui ont commencé le traitement avant, on dose les taux de CD4 supérieurs même à une personne normale qui n'a pas le VIH. Pourquoi? Parce qu'il a commencé le traitement à temps.
Il y a beaucoup de choses à dire à propos du VIH-Sida, cher docteur Placide Kayombo. Alors, à partir de quel âge les jeunes sont le plus exposés au risque de se faire contaminer par le VIH-Sida?
Voilà. Ça, c'est une question très, très pertinente.
Oui.
Parce que les jeunes, peut-être quand nous parlons en termes de juvénilisation du VIH, parce que nous avons constaté que le VIH commence à devenir plus chez les jeunes, malheureusement encore plus chez la jeune fille. Alors, à partir de quel âge? Nous répartissons ça à partir de 12 ans. Mais on sait déjà que, parce qu'en dessous de 10 ans, généralement, on lit ça S. On va interroger les parents. Mais déjà dans notre milieu, nous allons voir des filles ou des jeunes qui commencent les rapports sexuels précocement, à partir déjà des 12 ans, même 12. Donc nous répartissons cela en deux tranches. c'est de 12 à 24 ans, parce qu'il y a l'adolescence qui est là, cet âge de la curiosité. Nous avons parlé avec vous une fois sur l'adolescence.
Oh, oui, oui.
C'est la curiosité que les jeunes veulent découvrir, mais qui malheureusement ne découvre pas dans les bonnes conditions et ne découvre pas avec les bonnes informations. Du coup, l'adolescence, prend le défi. Et je peux peut-être aussi donner des petites raisons pour lesquelles les jeunes sont plus atteints actuellement. Nous disons que les jeunes sont privés des vraies informations sur la santé sexuelle et reproductive, y compris le VIH. C'est pour dire qu'aujourd'hui, parents, difficile de parler du VIH avec les enfants, parler de la sexualité. On s'est dit, comment je vais commencer à parler avec mes enfants sur la sexualité. Du coup, les jeunes sont exposés. Et autre raison, c'est que les jeunes n'accèdent pas au service de prévention du VIH. Aujourd'hui, cher Stanislas, si vous trouvez votre petit frère avec un préservatif dans la poche, le réflexe est d'abord de le gronder, de le taper même. Des fois, vous ne lui donnez pas à manger.
Donc, tu deviens prostitué.
Voilà. On lit ça à des mauvaises connotations. C'est pour que ces jeunes n'ont pas accès à des vraies informations, n'ont pas accès aux moyens de prévention contre le VIH et même les infections sexuellement transmissibles. C'est pour que c'est nous qui sommes adultes qui exposons les jeunes. Mais si on laisse les jeunes avoir des bonnes informations, soit en famille, à l'église, à l'école, ça pourrait aider correctement les jeunes. Il y a même des jeunes avec un petit livre sur la santé sexuelle et reproductive, ils doivent les cacher.
Oui, oui.
Si les parents voient, ils vont demander qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu cherches derrière ces livres. Du coup, les jeunes n'ont pas les vraies informations. C'est comme ça qu'ils sont aussi exposés.
Le VIH-Sida est plus répandu chez les jeunes dans les grandes villes ou même dans le village. Avec l'expérience que vous avez du Grand Kasaï, est-ce le mode de contamination dans le milieu rural et urbain? Ça se diffère?
Bon, d'abord, le VIH est d'abord partout.
Okay.
Que ce soit en ville ou au village, que ce soit dans le milieu urbain ou... En principe, le VIH est partout, mais plus en ville. Et pourtant, en ville, on a des télévisions. Quand nous sommes en train de parler avec vous, c'est plus la ville qui nous écoute.
C'est ça.
Au moins ça. Mais il y a quelques faits que nous constatons qui sont en ville, mais qui ne sont pas, je ne sais pas dire heureusement ou malheureusement, en ville. Il y a quelques pratiques qu'on constate en ville. Par exemple, ces systèmes de travailleurs des sexes, ou qu'on appelle les professionnels des sexes.
Oui.
Quand on est au village, tous les villages se connaissent. Tout le monde, on connaît qui. Tout le monde connaît tout le monde. Il n'est pas facile qu'il y ait un monsieur, une dame du village, commence à pratiquer cette profession dans leur milieu. Mais en ville, c'est acceptable. On trouve dans tous les coins, on est à Capella, on est à Willery, on est partout. Il y a ces fléaux des travailleurs des sexes qui est un métier qui augmente la contamination du VIH. C'est comme ça qu'en ville déjà, vous voyez qu'il y a des faits. Hormis les rumeurs, manque de bonnes informations, on ajoute ces pratiques qui ne sont pas au village, mais qui sont plutôt en ville. D'autres pratiques, par exemple le fait de l'homosexualité. Vous n'allez pas trouver au village facilement un homme faisant un rapport sexuel avec un homme. Mais qui est aussi une méthode qui expose plus ces gens à développer le VIH. Au village, vous ne trouverez pas beaucoup ces gens. En ville, il y a aussi les utilisateurs des drogues injectables. Mais c'est aussi une population cible pour la contamination du VIH.
Oui.
Mais qu'on ne constate pas facilement au village. Donc c'est tout simplement une particularité, le VIH est partout, mais plus en ville à cause de certaines pratiques qui sont en ville mais qui ne sont pas.
Très bien. Et l'éducation peut-elle aider les jeunes à se préserver du VIH-Sida?
L'éducation, c'est le moyen par excellence. Parce que ce qu'on entre de faire avec vous, c'est déjà aussi une éducation communautaire.
Voilà.
Ce qui va aboutir au changement des comportements sociaux. Quelqu'un qui était professionnel des sexes peut avoir une conscience de dire que mon métier m'expose. Soit je le laisse, soit je le fais avec protection. C'est le VIH. Donc c'est pour dire que si on n'éduque pas notre communauté, quelqu'un d'autre pourra le faire. mais il pourra les faire aussi à sa manière.
Alors, en peu de mots, parce que nous chutons déjà, et que fait votre association pour sensibiliser les jeunes sur cette maladie? Parce que on ne peut pas vous recevoir sans pour autant parler de votre association ABFM.
Non, je ne peux pas quand même parler sans dire un mot sur notre stratégie ou approche ABFND. Donc, pour notre association, d'abord, nous avons beaucoup d'approches des jeunes, mais surtout nous avons les mouvements d'action de jeunes, MAJ, répandus dans plusieurs provinces, environ 16 provinces actuellement. Ce sont les jeunes formés pour former les autres.
Très bien.
Donc c'est pour dire qu'avec ces mouvements de jeunes, il y a des conférences, il y a de grandes sensibilisations dans les églises, dans les milieux publics, dans les milieux chauds. Tout ça, le MAJ entre et sensibilise. ABFND a aussi le père éducateur diplômé à travers les provinces. Les pères éducateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils effectuent les visites à domicile. Ils passent dans chaque ménage, des villages, des quartiers, pour parler du VIH, de la santé sexuelle et reproductive d'une manière générale. Le père éducateur organise aussi des causeries éducatives avec les jeunes. Il passe dans les milieux des jeunes, dans les espaces sûrs, pour parler du VIH, pour passer la vraie information. Le VIH, l'ABFND a aussi formé les relais communautaires. Aujourd'hui, c'est plus de 5000 relais communautaires à travers le pays. Quelreco sensibilise également. Certains sont même crieurs la nuit, crient, disent attention, la maladie existe. On se voit telle place pour dépistage. Donc on a les relais communautaires. Mais aussi, ABFND a des cliniques privées. Il y en a 6. Si vous êtes à Kassavubu, à Bongisalibota, c'est la clinique propre à ABFND. Okay. Dans l'offre des services, il y a aussi la sensibilisation, il y a aussi distribution gratuite de méthodes de prévention, que ce soit pour la planification familiale ou alors dans la lutte contre le VIH/SIDA. Et peut-être comme on parle de l'ABF, je vais plutôt lancer un nouveau vibrant hommage pour ces personnes qui aiment voir évoluer la santé sexuelle et reproductive dont la planification familiale dans notre pays, devenir adhérer. Parce qu'ABFND n'a pas seulement le staff qui nous sommes, qui travaillons sur le projet qu'ABF a sensibilisé, on a aussi des membres volontaires qui se contribuent de leur temps, de leurs moyens pour l'avancement de la santé sexuelle et reproductive au pays. Donc si déjà Stanislas pourra prêcher par cet exemple, je pense que ça sera vraiment un bon...
Viens voir.
Nous vous entendons.
Docteur Placide Kayombo, la Radio Capi vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions.
C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que la Radio Capi ne cesse de nous faire.
Chers auditeurs, le magazine Bana Okapi se poursuit. Comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir du VIH-Sida? Notre dernier invité est M. Nera Chanira Kaninda, psychologue. Selon lui, l'éducation est une étape cruciale permettant aux enfants de se familiariser avec certaines valeurs et d'aiguiser leur personnalité. La personnalité d'une personne est composée des instances dont le surmoi, qui est l'instance et qui permet à ce que l'enfant puisse inculquer les valeurs et les interdits. Il invite finalement le parent à parler sans tabou de ces sujets car cela relève de leur responsabilité. Nera Chanira Kaninda s'entretient avec Jeff Opela.
Monsieur Nera Chanira Kaninda, bonjour.
Bonjour.
En tant que psychologue, comment utiliser l'éducation pour lutter contre le VIH/SIDA?
Comme nous le savons tous, l'éducation a pour but et objectif de pouvoir construire la personnalité d'une personne, lui permettre d'inculquer certaines valeurs, certaines vertus et bien entendu des instructions qui lui permettraient de s'épanouir dans sa vie. Et de cette manière, l'éducation dans le cadre de la prévention du VIH-SIDA est aussi utile et important à l'éducation de l'enfant. Il faut noter que la personnalité d'une personne est composée des instances dont les surmois. Et les surmois, c'est cette instance des interdits qui permet à ce que l'enfant puisse inculquer des valeurs morales, des interdits, et lui permettre de savoir faire les distinguos entre les biens et les mâles. Et dans cette optique, il s'avère évident, dans le cadre de l'éducation, de pouvoir aussi prévenir l'enfant sur les risques et les méfaits de contracter les virus du VIH-Sida. Et dans quelle mesure l'enfant peut être aussi un agent de prévention, de sensibilisation pour non seulement qu'il se prévienne lui-même, mais aussi qu'il contribue à prévenir la communauté à l'expansion de ces virus.
Voilà, M. Nira, mais à partir de quel âge un parent peut déjà commencer à parler de la prévention du VIH-Sida à son enfant, à votre avis?
Plus ou moins 6 ans, 7 ans, dans la mesure où la transmission du VIH-Sida, ce n'est pas forcément par l'acte sexuel, donc elle peut provenir de l'utilisation des objets tranchants utilisés par un porteur du virus, et ce qui expose une autre personne à pouvoir aussi contracter le même virus. Et dans cette optique, il est déjà très évident qu'on peut prévenir déjà l'enfant entre l'âge de 7 ans et 9 ans, parce que ceci lui permettrait déjà de ne pas utiliser abusivement des objets tranchants non stérilisés, et encore de pouvoir s'assurer de son hygiène et de sa propreté. Et c'est de cette manière aussi qu'on arrive à construire l'instance du surmoi, qui est l'instance des interdits, de la morale, et qui permettrait à l'enfant d'agir à bon escient. Et un enfant déjà à l'âge scolaire est doté des aptitudes qui lui permet de pouvoir inculquer des notions et des instructions dans sa vie, dans sa personnalité, et bien entendu aussi à arriver à faire les distinguos entre les biens et les mâles, parce que c'est cette étape de la socialisation, c'est à ce niveau de vie où l'enfant apprend comment est-ce qu'il faut interagir avec les gens au sein de la société, comment est-ce qu'il faut être hygiénique, être propre, prendre soin de son environnement. Et bien entendu, prévenir aussi pour les autres personnes, par exemple, que vous observez en train de jouer à des objets tranchants qui peuvent être aussi des enfants. Cela permet que les enfants puissent contribuer d'une manière ou d'une autre à la sensibilisation des autres. Et je crois déjà qu'à l'âge scolaire, qui commence déjà à partir des 6 ans ou 7 ans, il est très préventif de pouvoir apprendre à l'enfant ces notions. Et bien entendu que les notions peuvent être échelonnées, d'autant plus que l'aspect, par exemple, sexuel peut être évoqué à l'âge des 9 ans, 10 ans, 11 ans, parce que là, l'enfant atteint déjà l'âge de la puberté où les développements de ses organes reproductifs sont en pleine évolution, et que c'est en ce moment-là que l'enfant peut être instruit sur le plan de la sexualité, de la prévention sexuelle sur les virus du VIH-Sida. Mais par contre, pour l'utilisation des objets tranchants et autres, cela peut déjà subvenir à l'âge scolaire à partir des 7 ans ou 6 ans.
À votre avis, comment parler de cette maladie à son enfant sans pouvoir l'effrayer?
Comme nous le savons tous, hein, c'est de la même manière dont nous disons à l'enfant, il ne faut pas insulter son semblable, il ne faut pas voler, il ne faut pas détruire les biens à la maison, et qui sais-je encore. Et c'est de la même manière qu'on devrait instruire les enfants sur la dangerosité de ces virus. Et il ne sert à rien de pouvoir effrayer l'enfant. Par contre, il suffit d'inculquer tout simplement à l'enfant que, voilà, en tant que un enfant bien éduqué, en tant qu'un chrétien par exemple, voilà comment il faut se comporter pour prévenir telle maladie ou telle autre, et de cette manière l'enfant aura tout simplement à comprendre. Et je tiens ici à souligner que l'enfant est tellement méticulé par son intelligence à telle enseigne qu'il sait observer, comprendre, cerner et donner même l'essence à ce qu'il observe. Et dans cette optique, il revient tout simplement à parler de l'enfant aisément, sans pouvoir l'effrayer, sans pour autant évoquer des faits ou des événements traumatisant. Par contre, tout simplement dire à l'enfant que, en tant que chrétien par exemple, en tant que personne qui devrait s'épanouir dans l'avenir, voilà comment faut-il se comporter pour, par exemple, prévenir les virus du VIH-Sida ou telle autre maladie. C'est de cette manière l'enfant aura déjà inculqué ces notions de prévention.
À votre avis, pensez-vous que l'éducation peut aider à diminuer, à réduire les taux de contamination du VIH-Sida chez les jeunes?
Bien entendu, l'éducation contribue de manière significative parce que généralement l'enfance va dès la naissance à la fin de l'adolescence, et comme nous le savons, Si l'infection est plus sur le plan sexuel, ce qui suppose que l'enfant est vulnérable dès sa puberté. Et en ce moment-là, lorsque l'enfant n'est pas bien éduqué en la matière, il est facile pour lui de pouvoir tomber dans une situation qui les conduit à contracter le virus. Et ce qui suppose que l'éducation est très importante parce que l'enfant aura à prévenir. Déjà, l'éducation, non pas seulement pour la prévention du virus, mais l'éducation à la prévention de la sexualité pour une sexualité responsable est très indispensable à la vie de l'enfant. Et c'est comme ça qu'il est très impérieux de pouvoir éduquer l'enfant en cette matière. Et bien évidemment que cette éducation sera progressive en fonction de l'âge. Et comme nous étudions l'éducation à la vie déjà, je crois, à partir des 5e et 6e primaire, et moi, je préférerais même à partir des 4 ans des humanités, parce qu'en ce moment-là, l'enfant ne baigne pas encore dans la puberté, et ce qui fait que l'enfant aurait déjà à inculquer ses valeurs, ses notions, qui va les prédisposer à des comportements responsables. Et il n'est pas dit que l'enfant, l'éducation prévient de manière absolue, mais plus ou moins elle contribue de manière significative, et dans la plupart des cas, les enfants auront des comportements responsables pour pouvoir prévenir le virus.
Oui, monsieur Nera Kaminda, il y a certains jeunes aujourd'hui qui pensent encore de nos jours que le VIH-Sida est l'affaire de professionnels de sexe ou une malédiction. Que pensez-vous de cette affirmation?
Il s'agit des stéréotypes qui sont généralement promenés par nos sociétés. La dimension de l'éducation va permettre de balayer en fait ces stéréotypes. Parce que l'enfant, lorsqu'il apprend à l'école, il est évident pour lui que les notions acquises à l'école sont des évidences. Et c'est dans ce sens qu'il faut vraiment marteler sur l'éducation particulièrement scolaire des enfants dans la prévention de ces virus pour permettre de lutter aussi contre ces stéréotypes. Et je crois que des activités de sensibilisation, des campagnes de changement de comportement contribueraient aussi efficacement à pouvoir réduire la propagation des tels stéréotypes.
À part la campagne de sensibilisation, est-ce qu'il y a aussi autre méthode à utiliser pour sortir ces informations erronées de la tête des jeunes?
Il y a aussi des causeries éducatives, par exemple. Il y a des arbres palabres qui peuvent être organisés, et si déjà c'est organisé dans des cadres scolaires, ça serait très efficace, parce que ça permettrait aussi aux enfants de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils écoutent, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils croyaient avant, ou des croyances collectives qu'ils ont construites, par exemple, dans la cité. Et cela permettra c'est que de pouvoir balayer tous ces stéréotypes et mieux conscientiser les enfants sur la réalité relative au virus du VIH-Sida.
Alors, monsieur Nera Kaminda, pour les parents qui ont la difficulté de parler de ces sujets qu'ils considèrent tabous à leurs enfants qui ont déjà atteint l'âge de l'adolescence, quelle est la responsabilité de ces parents, de l'État congolais, en vertu de la prévention de cette maladie?
Je crois que les parents qui nous écoutent doivent prendre conscience de la responsabilité parentale à pouvoir éduquer les enfants et à prévenir même une période d'adolescence responsable, parce que c'est une période critique, c'est une période d'expérience, c'est une période qu'aucun parent ne peut contrôler forcément, parce que les parents ne se promènent pas avec l'enfant, ils ne partent pas à l'école avec l'enfant, et avec l'évolution du monde à travers la mondialisation, il est plus évident que l'enfant puisse avoir accès à tout type d'informations. Et il est très préférable que dans les cas de l'éducation familiale, l'enfant puisse apprendre à la maison qu'aller apprendre à l'extérieur. Mmh. Et de cette manière, les parents auront à contribuer significativement à des comportements responsables chez leurs enfants. Et je crois aussi qu'il y a de la responsabilité des églises et bien entendu des écoles, qui ont une influence significative sur les familles, sur les parents. Et si les églises arrivaient à prendre à bras les corps cette question, cela favoriserait également, dans le cadre de l'évangélisation, une éducation spirituelle aussi très efficace, bien entendu, dans le cadre de la sexualité responsable. Et je crois également qu'il y a cette responsabilité de l'État, en tant que débiteur des droits à l'éducation, de pouvoir réformer, par exemple, les systèmes d'enseignement scolaire qui permettraient à ce que les enseignements soient plus pratiques
à l'école, que la vie telle que vécue de manière réelle soit mieux enseignée à l'école, parce que c'est de cette manière qu'on pourrait préparer les enfants à pouvoir affronter les réalités de la vie, à pouvoir mieux gérer la satisfaction de leurs désirs et également contrôler les cours de leurs fréquentations, de leurs interactions sociales qui risqueraient de les emporter dans des situations, par exemple des grossesses non désirées ou des maladies sexuellement transmissibles.
Alors, merci Monsieur Nerachanera Kanyinda d'avoir répondu à toutes nos questions.
Le plaisir étant aussi pour moi, merci.
Vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du magazine Bano Okapi qui vous a parlé de comment l'éducation peut aider les jeunes à se prémunir du VIH-SIDA. Ce magazine est à retrouver sur les sites de Radio Okapi, www.radiookapi.net ou sur la page Facebook Bano Okapi. Nous disons merci à toute l'équipe Bano Okapi et à Mimi Kindou qui était du côté de la technique. Sarah Soumbela vous a présenté ce magazine. Merci et à la prochaine.